bien accompagné, c'est tellement mieux.
On vient qu'on sait plus ce qu'on sait, puis qu'on sait ce qu'on sait plus. Ou qu'on sait pas qu'on sait. Hi!
Boy,
bon matin. On est quoi, jeudi, jour de paye?
Oui.
Merci, merci. C'est très gentil de la part de nos patrons d'avoir donné une paye à leurs employés. C'est très gentil.
C'est quoi ça voulait dire, ta grande citation? Parce que si tu voulais me perdre, mettons, t'es vraiment bien parti.
C'est un grand philosophe qui avait déjà dit ça.
OK.
Ou mon voisin, là.
Ah ouais, c'est ça, c'est
pas. Je trouvais que ça avait bien du bon sens, parce qu'à chaque fois que je le dis, ça fout tout le monde.
Oui, mais ça a l'air... Ça a l'air de vouloir dire quelque chose de profond.
Exact.
Bon
c'est
matin.
Ça? Bon matin, toi.
Oui, honnêtement, je suis très de bonne humeur aujourd'hui.
Ouais.
T'es
pas lavé les cheveux hier.
T'as raison.
Oui.
Le plus un matin, j'ai mis ma tuque puis je me suis dit, maintenant que j'ai donné le truc, c'est sûr qu'il va m'en parler. Non, mais je trouve que ça fait un petit look relax de fin de semaine.
Oui, oui.
Fait que je suis vraiment... je me suis pas soignée.
Sens-tu le fond de tête?
Pas du tout.
Moi aussi, il n'y a pas grand-chose qui m'écœure comme odeur, là, mais l'odeur de fond
c'est
de tête...
C'est dégueulasse.
Je suis pas capable de sentir ça. Y a-t-il d'autres choses que t'es pas capable de sentir? Les parfums
beaucoup
trop...
prononcés.
Oui.
Ça me pogne au nez.
Ça sent... t'as-tu déjà passé à côté de la boutique? Je veux pas les identifier, mais en même temps, tout le monde va savoir c'est quelle boutique.
Bath & Body Works?
Non. C'est Lush.
Ah, mon Dieu, ben oui, mais là, oui, c'est
quand tu passes dans le hall où c'est le début de la porte de Lush, là, les yeux me brûlent, puis je me dis, mais comment font les employés pour être là à longueur de journée? Parce que c'est des produits que tu vas acheter qui sentent super bon.
Oui, c'est ça.
Exactement. Si t'en as juste un.
Individuellement, tous ces produits-là sentent exceptionnellement bon.
Oui.
C'est juste que le mélange de toutes les odeurs, c'est un peu difficile pour les narines.
Oui. Ah non, on créerait un party de l'âge d'or.
Mais il y a beaucoup... l'image a quand même pas
ça a pris quand même une seconde et demie. Mais oui, c'est ça.
Et c'est le matin, là.
Oui.
Non, mais il y a beaucoup d'odeurs, oui, qui m'écœurent.
Lush, c'est solide quand tu passes dans le hall.
Mais tu sais, j'ai même des habitudes, moi, qui sont reliées, mettons. Tu sais, quand je vais ouvrir la poubelle, là, la grosse poubelle dans laquelle tu mets toutes tes affaires qui ramassent aux deux semaines, là, dehors, là, je vais retenir ma respiration.
Okay.
Je peux pas sentir l'odeur de poubelle. Le cœur me lève pour l'avant-midi.
Okay. Ça me dérange pas tant.
Hein? Puis, non.
Puis il y a une odeur que je sens... que j'aime quand même, puis que tout le monde trouve que ça pue. Je fais pas croire que je te dis ça à toi, là.
Le gaz?
Parce qu'à chaque fois que je disais ça... Non, je suis quand même né à Saint-Roch, là, mais le gaz, on s'est fait dire de pas faire ça. Fait que nous autres, c'est la colle...
C'était
de la colle Lepage. Mais... Qu'est-ce que je voulais dire?
L'odeur que tout le monde trouve que ça sent mauvais, mais pas toi.
Ouais.
C'est quoi?
Quand il y a une moufette qui se fait écraser sur l'autoroute...
Kian!
L'odeur...
Ah, non.
Je trouve que ça sent bon, puis je le sais pas pourquoi.
Tu dis ça, je me pince le nez. Moi, mon chien s'est fait arroser deux
moi
fois.
Moi aussi.
Je suis traumatisé par l'odeur de moufette.
Quand mon chien s'est fait arroser, moi, j'avais un pug. Là. C'est quoi un pug?
Ben
ça
oui.
Se promène devant, derrière, tu sais pas.
Oui, faire s'écraser bien raide. Là.
C'est ça. Puis quand tu permets que ça dorme avec toi dans le lit, des fois, tu donnes des petits becs à des places que tu devrais pas.
Ouais. Ça respire pas trop un pug non plus. Hein. C'est comme.
Puis ça ronfle la nuit. Ça pète.
C'est épouvantable.
Puis moi, elle avait. On sortait le soir, on était à Lévis à ce moment-là. Puis je sortais ce chien-là juste le soir pour pas me faire voir par mes chums. Et elle était jamais attachée. T'sais, c'est un petit chien qui me suivait tout le temps. Ça a été le meilleur chien que j'ai eu de ma vie, Yuki, que j'adore. Puis elle me suivait tout le temps partout. Tout le temps, partout. Puis elle était l'amie de tout le monde, incluant l'amie des moufettes. Et à un moment donné, il y a une moufette qui passe sur notre terrain. Puis qui s'en va se cacher directement en dessous du cabanon. Puis tu sais, la moufette, pour passer en dessous du cabanon, elle a dû se cambrer. Fait que tu sais, elle était dans la position idéale là, pour... pas ce que tu penses, là, mais la position idéale pour pouvoir arroser.
Ouais, elle avait de la grippe.
Puis Yuki, mon chien, a décidé d'aller sentir le péteux.
C'est épouvantable. Elle a reçu dans le nez.
Oui, puis t'as vu les yeux d'un pug?
Ben oui, mais mon Dieu, ils sont déjà rouges.
Des gros yeux globuleux. Fait que là, moi, je l'ai senti. J'ai vu ce qui se passait. Yuki, va pas là. Ah, tabarde!
Tout le temps trop tard.
Je prends le chien dans mes bras parce que j'avais l'impression que quelqu'un était en train de la poignarder.
Ben oui, mais ça fait mal, c'est une huile.
Le mauvais réflexe que j'ai eu, on dirait que ça fait deux fois que je te le compte, mais je pense que je l'avais compté à Pascal. Le mauvais réflexe que j'ai eu, c'est de la rentrer dans la maison.
Épouvantable.
Puis là, ben moi, j'en avais plein sous moi de l'huile de moufette.
Ça
là,
colle
parce que
mûles.
Je l'avais mis sur moi.
Oh.
Et le chien s'est comme débattu parce que là, les yeux, ils piquaient. Puis là, elle a entendu sa mère en haut, là, la mère de mes gars, disait « Mais voyons, qu'est-ce qui se passe, Yannick? Qu'est-ce qui se passe? » Je lui dis « J'écoute un film un peu louche. » Puis bref, Elle a parti à courir, elle a fait le tour de la maison, elle est embarquée sur les divans,
oh,
s'est frottée la face sur les divans. Après ça, en entendant sa mère gueuler en haut, en disant « mais qu'est-ce qui se passe? » Elle a décidé d'aller voir sa mère, elle a monté sur le lit, elle se frottait la face. Puis là, la mère des gars était là « Ah! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ça pue! Ça pue! » Puis là, je disais, elle s'est fait arroser par une moufette, ce qui fait en sorte qu'en 10 minutes, là, ça c'est le temps où j'ai ouvert la porte pour faire un petit pipi au chien. Puis le temps où elle est sortie de la maison en disant « Je peux pas sentir ça », elle a mis le bébé, c'était Joshua qui était en vie à ce moment-là. Elle a mis le bébé dans le char, puis elle a sacré son camp chez ses parents. Moi, en 10 minutes, là, j'avais plus de lit. Ma maison était remplie d'odeurs de moufette. J'avais un pog.
T'avais plus ta blonde puis ton fils.
Qui était embarré dans la chambre de bain. Puis en 10 minutes, j'ai tout perdu, là.
Ah non, mais puis les gens qui ont pas d'animaux puis pour qui c'est jamais arrivé, là, c'est indescriptible parce que c'est pas juste comme « Ah, ça pue, c'est pas le fun, mon animal a les yeux rouges », là. C'est, cette odeur-là reste pendant des semaines. T'as beau push-pouter tout ce que tu veux dans la maison, t'as beau faire du lavage. L'odeur de moufette, là, c'est faite pour que quand, mettons, l'humidité revient, ça sent.
Exact.
Fait que ton chien, là, au bout de 6 mois, là, même si tout ça est réglé enfin, là, s'il a le malheur de pleuvoir dehors ou que c'est humide puis rentre en dedans, il y a encore la petite odeur de moufette qui colle. Mais moi, là, écoute, moi, c'est un golden là, que j'ai, puis ils sont malheureux quand ils se font arroser là, parce que ça pique, ça leur fait mal. Te dire comment j'avais les cellules de narines brûlées, Yann, là, de laver à 9h le soir au mois d'octobre. Là, c'est arrivé 2 ans de suite au mois d'octobre. Là, fait que nous autres, on est bien prudents à ce temps-là de l'année. Là. C'est horrible. Fait quand je sens la moufette, là, on dirait que je suis encore plus sensible maintenant. Je trouve pas en tout que ça sent bon.
Mais c'est ça. Quand ça tombe sur ton chien, t'es obligé de ramasser la merde, là, en bon français, c'est sûr que ça pue.
Mais c'est crissant, là.
Quand il y a une moufette qui s'est fait écraser sur l'autoroute, là, puis je passe, là,
tu m'écœures, Yann.
Ça sent bon.
Des fois, je me considère weird sur des affaires, fait que je pensais qu'on allait peut-être se rejoindre, non. Mais la moufette, tu me perds complètement.
Mais je suis pas le seul. Il y a des gars qui m'écrivent pour dire qu'eux autres aussi, ils trouvent ça. Ils trouvent que ça sent bon. Le fumier, ça va, mais la moufette écrasée, je la comprends pas. Et c'est
le fumier, moi, tu vois, là-dessus, j'ai pas le choix de dire que je trouve que ça a une petite odeur exotique. Je te dis pas que ça sent bon.
Ouais. Moi, j'ai resté en Beauce plusieurs années. Là. Ouais. Mes gars sont encore là. Ils épandent 3-4 fois. La plupart du temps, ils épandent quand il va pleuvoir le lendemain. Puis, mais c'est rare qu'ils se trompent. Là. Mais quand ils se trompent, puis l'odeur traîne 3-4 jours, là, t'étends pas ton linge dehors, t'ouvres pas tes fenêtres.
Ouais, ça va sentir.
Puis à Sainte-Marie-de-Beauce, il y a quelque chose de formidable qui se trouve là. C'est une usine de petits gâteaux vachons.
Oh.
Fait que quand ils épandent, puis ils sortent les petits gâteaux vachons, puis ça sent les deux en même temps, c'est la pire odeur.
Ça doit être weird.
De l'histoire.
Urk!
Mais il y en a qui trippent sur l'odeur de fumier, moi non.
C'est vrai que la moufette, ça sent la Corona.
Oui.
C'est peut-être pour ça que t'aimes ça, dans le fond. Je viens de faire le lien, ça sent la pisse.
Non, ça sent pas la pisse.
Ben voyons, la bière, la bonne vieille bière, là, une écrème,
Dave qui dit,
tout,
moi aussi,
ça sent toute
que
la
ça
pisse.
Sent bon.
Voyons, vous êtes même bizarres, les gars. Vous avez une dysfonction.
Arrête
là.
De nous juger.
Ben non, mais il y a de quoi de weird dans vos affaires, là. Il y a des gens qui trippent sur l'odeur de la colle. Je comprends totalement. Tu sais, toi, tantôt, tu parlais de ta petite colle liquide, là. Moi, c'est la colle en bâton.
Ouais. Je me souviens, au primaire, il y avait des petites filles qui mangeaient cette colle-là à l'école.
Ah, mais moi, je trippais sur la colle en bâton. Je frottais mon doigt, là, tu comprends, je sentais, puis j'ai déjà goûté. J'étais curieuse. On faisait des toiles d'araignée, nous autres, avec ça.
Ouais.
Je me suis beaucoup amusée avec la colle. Moi, le gaz, mais tu sais, le gaz à skidou, là, il y a une distinction d'odeur, là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris?
Parce que tu me confies. Je peux pas aller là.
Tu peux pas?
Non.
T'es sûr?
Dans mon ancienne vie, j'aurais fait la joke plate, mais là, je peux plus.
Tu peux plus avoir?
Non.
T'es sûr? Parce que je suis quand même ouverte, là.
On est-tu sur Twitch présentement?
Ben oui, on est sur Twitch.
Si j'éteins les micros, ils peuvent-tu nous entendre?
Ben si j'éteins. Oui, éteins je peux éteindre les micros, mais là, on est en ordre.
Éteins le Twitch.
OK, j'éteins le Twitch. Okay. C'est fait le Twitch.
On vient dans 30 secondes.
30 secondes, OK. Un, deux, on s'absente.
Je vais faire ça super vite.
Ah, ouais, non, c'est ça, on va pas là, dans le fond. Comment je te dirais ça?
Ouais, non.
Non, on ira pas là, fait que le gaz.
Oui.
C'est ça, le gaz à skidou, ça sent vraiment bon.
T'as-tu déjà enquêté?
Non.
Non?
Non, c'est ça. J'ai pas enquêté, mais j'aime l'odeur du gaz. Tiens. Suivre un camion qui récupère les carcasses d'animaux en pleine canicule. Ouais, ça, c'est une odeur dégueulasse, Eric, par exemple. Il y a vraiment rien qui sent bon là-dedans.
Dites merci aux gars et aux filles qui font ce métier-là parce que c'est important
de le faire.
Puis moi, quand je passe à côté de l'usine, c'est à Charny, cette usine-là, tout juste aux abords de la 73. Puis à chaque fois, mes enfants disent « Papa, t'as-tu pété? » Mais ces gars-là et ces filles-là qui travaillent dans cette usine-là, c'est l'odeur avec laquelle ils doivent vivre en permanence.
J'ai beaucoup de respect, mais il ne faut pas que tu ailles d'âme.
Quand il fait plus chaud, là, parce que des fois, les bêtes restent dans les camions, quand il fait plus chaud, ça sent plus fort. Ces gens-là, là, c'est leur travail. Ils sont bien payés, là, sont bien rémunérés, mais n'en demeure pas moins qu'ils font un travail incroyable. John Meacham aussi, Fred, si tu m'entends, je te salue, travaille à l'incinérateur de Québec. Ça aussi, il y a des odeurs, là.
Je serais pas capable. Mais j'imagine que tu t'habitues, tu sais. À basse échelle, puis ça sent bon, là. Mais tu sais, tu as travaillé chez McDo, toi aussi, là.
Ouais.
On le sentait plus qu'on sentait le McDo quand on sortait de chez McDo.
Tu le sentais le lendemain matin.
Fait que j'imagine
quand
que quand...
Quand tu reprenais ton linge,
ouais,
là.
Ça sentait l'huile dégueulasse, ouais. Là. Ouais. Mais j'ai l'impression que quand tu travailles dans ces endroits-là, ton nez s'habitue. T'sais, tu t'en rends plus compte.
Amélie qui dit, imagine des fois, ça sent au deck Lévis. Ouais, t'as raison, Amélie. J'ai joué au deck Lévis longtemps, puis c'est vrai que quand il fait un peu plus chaud le soir, tu sens l'usine qui est à côté. C'est assez particulier.
Tu vois, j'aime l'odeur du silicone à salle de bain. Ouais. Ça sent le vinaigre.
Oui, il y a beaucoup de monde qui aime cette odeur-là aussi.
Wow! Hey, non, mais j'aime ça. 88-971-1021.
T'as-tu déjà flushé un gars parce qu'il puait?
J'ai jamais flushé un gars parce qu'il puait, parce que je m'approche pas des gens qui puent.
Okay.
Mais j'ai déjà dit à quelqu'un, j'ai déjà parlé de la laine. Moi, la laine, là, si t'as mauvaise haleine, c'est sûr que je t'en parle.
Moi, je bois du café à tous les jours.
Mais si tu sentais mauvais de la laine à la proximité, c'est sûr que je t'en glisse un mot. Ça me pogne. J'ai tellement les sensibles, ça m'écœure.
Il y aurait un panneau. Là.
J'en mettrais un. Puis je te dirais que c'est parce que j'ai peur des bactéries.
Tu sais que j'ai peut-être passé à côté d'une des femmes de ma vie.
Pourquoi? Parce que tu sentais mauvais?
Non. Je me rappelle pas de son prénom, mais elle était...
Vraiment la femme de ta vie?
Hein? Super jolie.
Okay.
Elle était hyper brillante. Elle était le fun à jaser. Mais elle tripait sur le patchouli. Tu sais, le parfum là, qui sent le patchouli. Là.
C'est quoi du patchouli?
Mais quand tu passes à côté de la boutique Loche, là,
ah, ouais?
Ben, ça pouvait s'apparenter à ça, le patchouli.
Je comprends un peu ce que tu veux dire.
Puis c'était beaucoup trop intense. Ah. Puis c'était dans les grosses soirées de la Grande Allée. Je l'avais rencontré là. La fille était super, puis je l'ai fréquentée sur 3 semaines, puis elle était tout à fait adorable. Mais son odeur de patchouli, je n'étais pas capable.
Mais ça se
puis,
dit, ça!
J'ai développé une aversion envers elle en raison de son odeur. Puis à un moment donné, on était dans un bar, c'était au Dagobert, là, les grosses soirées du Dagobert le dimanche soir, c'était la soirée hôtellerie et kiffeuse. Puis les gin tonic étaient à 2,5 piastres, 3 piastres,
oh,
qui fait en
doux.
Sorte qu'à la fin de ta soirée, tu t'en souvenais jamais. Puis tu repartais toujours en taxi et où on te retrouvait dans les vidanges dans la ruelle en arrière.
La pile d'amour le lendemain.
Et je me souviens, Audrey, c'est arrivé 2 fois. Tu... Doc Mayou, je vais te parler de Doc Mayou, c'est après.
Ah, j'ai entendu parler de Doc Mayou.
Je me souviens que quand elle a franchi les portes de la Grande Allée jusqu'à l'intérieur du bar, le Dagobert, il y a une draffe qui est passé possiblement devant, ça a rentré à l'intérieur du bar. Puis moi, j'ai dit à un de mes chums, elle s'en vient, je sens son odeur.
Hey, c'est weird, ça, là.
Oui, ouais, mais j'avais développé comme une aversion. Là,
mais ça se dit-tu à quelqu'un?
Je l'ai ghosté.
Oh, Yannick Marceau.
La peur de déplaire à quelqu'un,
oui, mais c'est pas
ça
elle.
A longtemps fait partie de ma vie.
Mais c'est son parfum.
Fait qu'au lieu de dire, ton parfum, je suis pas capable, puis il fait de la peine, puis qu'elle se sente mal, j'ai préféré ne jamais la rappeler, puis ignorer ses appels.
C'est épouvantable, le bon mot.
C'est arrivé la même affaire qui m'est arrivée avec Doc Mayou. Doc Mayou ne prenait pas, il se lavait pas à tous les jours.
Ouais.
Il aimait son odeur corporelle.
Ouais. Petite odeur de swing.
Il venait faire un tour à l'endroit où je travaillais, puis il y avait un animateur qui pouvait le recevoir pendant 1h30, 2h, 3h. Et bon, Doc Mayou, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'était tout un personnage. Puis il était le fun, écoutez, il était divertissant. Des fois, il disait des affaires que ça venait te chercher au plus profond de toi-même en disant c'est-tu vraiment basé sur la science, là, ou bien c'est, tu sais, le.
T'sais, c'est par, du spectacle.
Tu sais, par yéré, ouais, ou c'est du spectacle, tu sais. Puis, mais jamais l'écouter. Mais dès que moi, je rentrais dans le studio après pour faire mon émission, c'était l'odeur du Doc Mayou, puis c'était. C'était la pire des odeurs, en fait.
Hey, je fais le pot, t'en parles, puis je croche.
Ouais. Puis lui, il sait, en fait, il nous a souvent parlé à la radio que cette odeur-là, ça attirait les femmes. C'est ce qu'il disait, c'est ce qui se disait dans sa tête.
Hey, on n'est plus en moins 2000, là, on n'est pas des gorilles.
Puis à un moment donné, je vais avec Laurence Gagnon, qui est à Weekend, qui est en congé de maternité, qui était ma collègue à l'époque. On va voir le gala de boxe. Et on est, je pense qu'on est à peu près à 15 bancs de la terrasse, là.
Okay.
Où il y a le fameux gala. Puis à un moment donné, je dis à Laurent, je dis, ça sent le Doc Mayou. Elle dit, ben non, il n'est pas là. Je dis, je te le dis, ça sent le Doc Mayou. Et 10 secondes plus tard, on l'a vu apparaître là, en bas.
Vous l'avez croisé.
Non, il était. Je le voyais de loin.
OK, OK, OK. Mais parce que tu l'avais senti.
Il était genre à 200 pieds de moi.
Hey, mais c'est parce que tu peux pas faire vivre ça au monde. C'est épouvantable.
Mais il y a des gens qui réussissent à travailler avec, là.
Ben, non, mais ça, c'est des gens juste qui sont vraiment polis, là.
Jusqu'à temps qu'ils disent tu vas avoir ton propre studio à toi puis tu vas travailler à distance, Pierre.
Il y a des gens qui nous disent, au niveau des odeurs, les odeurs qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, l'odeur d'une auto neuve et l'odeur des livres, j'adore. Ça, j'ai pas le choix de me ranger de ce côté-là. On a un policier ici qui nous dit, un corps amputé, ça pue tellement que même si tu respires par la bouche, tu le goûtes, c'est dégueulasse. Ou la décomposition. On entend souvent que les travailleurs, comme les ambulanciers, les paramédics, les policiers, quand ils arrivent sur une scène, ils savent s'il y a quelqu'un qui est décédé à l'intérieur parce que ça sent la mort. Nous autres, c'est un peu inexplicable. C'est quoi la mort pour nous autres, là, en frais d'odeur? Mais eux le savent parce que l'odeur est tellement forte et puissante, paraît-il, que c'est ça, tu le goûtes, littéralement.
Ouais. On m'a dit que c'était à peu près la même chose que quand tu découvres une carcasse d'animaux mort dans le bois. Là. C'est à peu près la même odeur.
Ça m'écœure bien raide, c'est épouvantable. Je travaillais à côté de l'usine où ils font de la moulée pour animaux. Ouais. Ça pue, c'est incroyable. Ça aussi, ça doit être dégueulasse.
C'est la même usine que je te parlais tantôt.
Ah oui, c'est la même, à la même place. Ah non, ça n'a pas de bon sens. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec l'aspect de la laine. Ouais, c'est une odeur qui est vraiment dérangeante. Est-ce que vous osez le dire?
Non.
T'oses pas? Non. Moi, c'est quelque chose. Si t'es proche de moi ou je travaille avec toi au quotidien, dans ma tête, je te rends service.
Oui.
Peut-être que peut-être qu'au final, c'est pas correct ce que je dis, mais moi, j'aimerais tellement qu'on me le dise.
Ouais.
Parce que je considère que je suis une personne propre, là. Ouais. Fait que je considère que c'est pas. Je pense que. Ah, et là, la différence. Si tu pues tout le temps, je te le dirai pas. Parce que visiblement, c'est comme ça que tu traites ta vie, là. Tu manques d'hygiène. Fait que j'oserais jamais te dire tu manques d'hygiène. Mais si une journée, t'as mauvaise haleine, je vais dire, hé, là, il prend une gomme. Je pense que t'as mangé toi qui fais les beaux.
Un nouvel arrivant, et je me souviens que je le côtoyais régulièrement, puis à chaque fois, il sentait le swing. J'étais pas capable de dire. Ici, on met du déodorant.
Mais ça, c'est ça. Ça, il y a une différence culturelle. Puis c'est là que c'est touché parce que nous, on est aseptisés. Là. On en met du savon puis du parfum. Et encore une fois, c'est culturel. Puis il y a bien d'autres endroits dans le monde où, justement, soit ils n'ont pas accès, soit ils n'utilisent pas ça par choix, par peu importe.
Ce qu'on m'a raconté, c'est qu'ils ne le sentent plus parce que le nez est désensibilisé.
Mais oui, c'est normal.
Le cerveau est tellement habitué à cette odeur-là qu'il en fait abstraction.
Mais comme nous autres avec tous les parfums ici, là.
Exact.
C'est la même maudite
affaire.
Les autres, ils
trouvent qu'on sent trop le savon ou qu'on sent trop le parfum.
On les écœure, je comprends donc.
Je préfère quand même mon odeur à l'odeur du dessous de bras.
Non, mais ça, l'odeur du swing, moi, il y a quelqu'un qui nous dit « Si j'ai déjà refusé de fréquenter une fille vraiment super parce qu'elle devait laisser ses souliers dehors tellement ses pieds sentaient épouvantables. » Mais ça aussi, c'est une affaire, les gens qui puent des pieds. Et je remercie le bon Dieu, j'ai jamais eu ce problème-là.
Ouais, moi, ça m'est arrivé souvent, parce que j'ai tout le temps les mêmes...
Quoi?
Ben, tu vois, j'ai tout le temps les mêmes bottines.
Fait que tu mets des bas, tu mets du push-push?
Je mets des bas, mais je mets pas de push-push. Puis à un moment donné, ça passe.
Ah ouais, hein?
Ouais.
T'achètes pas un spray pour les entretenir, mettons?
Non, Audrey, je passe de 6h30 du matin, dans ces bottes-là, là, de 6h30 du matin jusqu'à 7h30 le soir... Je passe 13h, 14h dans mes bottes. Fait que ça se peut qu'à la fin de la journée, si tu tiens vraiment à dire, ça se peut-tu que ça sente quelque chose? Ça se peut que tu dises, je peux pas croire que tu vis là-dedans.
Mm.
Mais après ça, tu vas prendre ta douche puis ça disparaît.
Ouais, c'est ça. Mais ça reste dans tes chaussures, là. Mais il y a quelqu'un qui nous dit, on a déjà retourné quelqu'un chez eux se laver. Il était venu travailler avec le rigurgi de son bébé sur son linge. Mais il n'avait pas changé son chandail. C'était épouvantable, l'odeur. C'est vrai que ça sent comme le sûr un peu, hein? L'odeur de rigurgi de bébé.
Ouais, quand c'est le tien, on dirait que ça dérange peut-être un peu moins.
C'est un peu moins pire, sûrement, j'imagine. Là, mais... Ah, tu vois, en cuisine, j'ai déjà travaillé entre deux gars, un qui pue le swing, l'autre le tabac.
Ben, moi, j'ai travaillé dans des sections fumeurs, bars et restauration. Là. Des bars, c'était fumeur partout, mais t'avais, quand tu étais dans la restauration, tu avais un bar fumeur puis un bar non-fumeur qui était un peu plus familial.
Ouais.
Puis moi, je préférais travailler du bar fumeur parce que c'était pas mal plus payant. Parce que les fumeurs, ben c'était ils consommaient plus, puis en plus, ils buvaient plus d'alcool. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être scientifique, là. Mais je vendais plus de vin du côté fumeur chaque soir. Fait que moi, qui n'ai jamais été un fumeur, je tripais à mort d'être là parce que je me disais, ça va être des gens relax, puis ça va être des gens qui vont être vraiment payants. Je vais passer une super belle soirée.
C'était habitué à l'odeur?
Mais tu t'en rends pas compte le soir. C'est quand tu reprends tes vêtements le lendemain pour mettre ça dans la laveuse, là, juste le fait de prendre ça à terre.
Ah, puis ta barbe, tes cheveux.
Tu mets ça dans la laveuse. Oh! Ben, mais tu prends ta douche en arrivant.
Ah, mais ça, que je te dis, ça pue. J'ai déjà fréquenté un gars là, qui fumait. Là.
Oui.
Puis des fois, vous, c'est ça, vous vous en rendez pas compte parce que vous autres, ça fait partie de votre quotidien, mais vos bouts de doigts. La laine, ça peut gérer un certain point, mais ça reste pogné dans la barbe. Je veux dire, c'est. Et que ça sent mauvais. Et le pire, Yann, là. C'est le gars qui est conscient, là, qui va fumer et qui après se met une petite shot de parfum supplémentaire pour pas que ça sente.
Pour
et là, ça sent la boucane et le axe. Et ça, honnêtement, là, c'est à se pitcher en bas d'un pont. C'est horrible. Sérieusement.
Tout est parfait. OK. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021, les amis. 88-971-1021. On n'avait pas prévu parler de ça. Mais je me demande pourquoi je me prépare pour ces émissions-là. On parle jamais des sujets que
comment
je vais aborder.
Comment on est arrivé là?
Ben, toi, là, avec ta tuque. Parce que
ah,
tu t'es pas lavé les cheveux
hier. Oui, mais ils sentent bon. Attends, là. Je veux... Moi, c'est juste que j'ai le cheveu qui vient sale vite. Je les ai lavés hier matin, mes cheveux. Mais je peux pas les toffer. Il y a des filles qui s'y lavent pas pendant 16 jours, puis c'est correct.
Ouais.
Et moi, ils sentent super bon. Je vais te faire sentir. Ils
non,
sentent bon.
Ça va.
Ils ont juste un look un peu moins cute.
Non, tu sais, tu parlais de ma bulle hier.
T'es grande à ce niveau-là aussi.
Je tiens à la garder.
Parfait, j'accepte.
Ouais. Je pense juste aux gens qui nous regardent sur Twitch, pas de son, puis qui me voient sentir tes cheveux.
Ben, j'avoue que c'est louche.
À quel point tu peux réutiliser ces images-là pour nous faire mal paraître? Elles sont bizarres, les autres. Donc, 418-971-101, si vous avez des choses à nous dire, il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. À la mer à Théo, c'est moins 6 degrés sur Québec avec le refroidissement et éolien. C'est une température ressentie de moins 13. Pour ce qui est d'aujourd'hui, alternance de soleil nuage, c'est ce qu'on a pour la grande région de Québec
c'est
actuellement.
Beau.
Maximum de plus 2 degrés. Ce soir, cette nuit, des nuages, minimum de moins 6. Vendredi, ensoleillé, avec un maximum de 7 degrés. Dimanche, samedi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 10. Donc, c'est Cancun samedi et Cancun dimanche, parce que dimanche, c'est une alternance de soleil nuage avec un maximum de 14.
Aujourd'hui, on reçoit un gars que j'aime beaucoup qui s'appelle Benoît Letarte, qui est responsable de la fondation et des communications du Collège des Hauts Sommets. C'est un collège dont je vous ai déjà jasé il y a un peu plus d'un an, qui fait les choses assez différemment. C'est un collège qui aide, en fait, les jeunes en difficulté. Fait que des jeunes en difficulté, ça peut être, je te dirais, n'importe quel problème ou difficulté, justement, que ce soit des gens qui ont un fort TDAH, un handicap d'une certaine, d'un certain type, difficulté d'apprentissage, d'adaptation. Puis c'est des jeunes qui viennent d'à peu près partout au Québec qui se rendent au collège des Hauts Sommets, puis ils peuvent même dormir. Il y a une résidence sur place.
Ouais, c'est à Saint-Tite-des-Caps.
C'est à Saint-Tite-des-Caps. Et si je me trompe pas, il y en a plus ben au Québec, là, des écoles où tu peux carrément dormir sur place, être hébergé, être nourri là-bas. Leur concept et leur façon de faire est assez différente. Puis pour moi, ça devrait être une inspiration à certains niveaux sur ce qu'on fait dans notre système d'éducation. Et pour pouvoir fonctionner, bien, cette école-là a une fondation justement qui aide à pouvoir payer tous les gens qui sont là 24 heures sur 24, qui aident ces jeunes-là en difficulté. J'ai bien hâte que Benoît puisse vous dresser le portrait de façon un peu plus claire par rapport au Collège des Hauts Sommets. Si vous avez des questions, un jeune justement qui a des difficultés, que ça vous intéresse cette école-là, ou que vous avez des questions simplement sur le modèle, 418-971-1021 par texto, 780-1021 téléphone.
Tu m'avais parlé de ça l'an passé, puis j'en avais parlé avec la mère de mes enfants, puis elle avait dit « Je suis pas prête à laisser partir mes enfants tout de suite, Yannick.
» Tes gars sont pas si problématiques non plus.
Oui, mais c'est pas une question de problématique, c'est je trouve que le principe est le fun.
Ah, vraiment, vraiment.
Ils apprennent dans un endroit où ils tissent des liens extrêmement précieux avec leur collège, puis en plus avec leurs collègues où ils passent pratiquement 5 jours sur 7.
Oui, c'est capoté.
Je trouvais ça formidable. Moi, quand j'étais jeune, j'aurais adoré passer du temps à ce collège-là.
Regarde, tu vois.
Ils offrent du deck hockey, du hockey, du volleyball, du basket, divers types d'entraînement, du skate, BMX, du ski puis de la planche à neige. Sérieux, c'est vraiment un bel endroit, un beau collège. Comme il n'y en a plus.
C'est une centaine d'élèves par année qui vont là. C'est 95% des élèves qui ont un plan d'intervention. Fait qu'il y a quand même des jeunes qui n'ont pas nécessairement de troubles d'apprentissage. Pour te donner une idée, là, 11% ont un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. 65% troubles ou déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. 36% qui ont des enjeux niveau anxiété. 80% qui fréquentent les résidences scolaires. 50% qui ont un retard scolaire. Puis ils suivent, ces jeunes-là, tout le programme régulier du ministère en passant. Là. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment on est arrivé à créer quelque chose d'aussi spécial? Puis pourquoi on rush autant dans notre système actuellement d'éducation dans nos écoles publiques? Fait que je trouve qu'il y a peut-être des liens qu'on est capable de tisser.
Il y a quelqu'un qui m'écrit actuellement, salut Sébastien, en passant, il me dit « Mes deux gars vont au collège des Hauts Sommets, c'est vraiment un bon collège. »
Ah, nice! Ben, je suis content de voir qu'il y a des gens qui le connaissent déjà.
Ben oui! Donc, on a bien hâte de lui jaser, M. Benoît Letarte. Malajube, radiologie sur Boulevard.
Et Audrey Pinchot.
Boulevard 102.1.
Beaucoup de choses dans l'actualité. On va en faire le tour tantôt avec Pascal CV qui est de retour.
Mais oui, de retour du Grand Nord.
Oui, on va comme être le Cancun à Pascal.
Oui.
On va revenir ici dans des températures plus clémentes.
Oui, puis là, il fait beau en plus, c'est chanceuse.
Ouais. Hey, j'ai quelque chose à vous jaser, les amis. Avez-vous eu chaud cet hiver? Est-ce que vous avez réussi à geler quand même? Si c'est pas pour vous, c'est sûr que vous ne connaissez quelqu'un qui a toujours trop chaud ou trop froid. À partir de lundi, on a un concours parfait pour corriger la situation grâce à Enviro Confort. Écoutez-nous dans l'émission Rage Against le matin, la semaine prochaine, pour dénoncer une personne de votre entourage qui n'est jamais satisfaite de la température. OK, j'aurais sorti ton nom. Jamais satisfaite de la température intérieure et vous pourrez gagner une thermopompe LG Dual Cool de 12 000 BTU livrée et installée pour vous autres pour que vous soyez confortable en toute saison en collaboration avec Enviro Confort. All right, 10h31, on va faire une courte pause, les amis, et on revient avec ce fameux Benoît Letarte qui est responsable de la Fondation et des communications du Collège des Hauts Sommets. Je vous le dis, vous allez découvrir un endroit incroyable.
Ce segment d'émission présenté par Kia Québec, Kia Saint.
All right, je pense qu'on va passer quelques minutes très, très agréables avec notre prochain invité. Si vous avez des questions pour lui, on va vous le présenter, bien entendu. Mais si vous avez des questions pour lui, au 418-971-101, vous nous écrivez par texto et ça va nous faire un plaisir de relayer vos questions à Benoît Letarte, qui est responsable de la Fondation et des communications du Collège des Hauts Sommets. Salut, Benoît!
Bonjour, merci de me recevoir.
Ça fait, ben, merci à toi de t'être pointé. Moi, ça fait presque 2 ans, j'entends parler de votre collège. J'en ai même parlé à la mère de mes enfants qui, pour l'instant, dit « je vais y réfléchir ». Quand Audrey m'avait parlé de votre collège l'an passé, j'avais été faire un tour sur votre site web. Puis je trouvais ça franchement intéressant et franchement rafraîchissant, cette idée-là d'avoir des enfants au collège qui peuvent... former un genre de confrérie pendant plusieurs années. Je trouvais
le principe très cool. Mais des jeunes qui auraient de la misère dans notre système d'éducation régulier. Puis ce que je trouve le fun, c'est qu'il n'y a pas grand monde, on dirait, de plus en plus. Mais quand j'en avais parlé l'an passé, je me rendais compte qu'il n'y a pas tant de gens qui étaient au courant qu'on avait ça pas loin. Puis que même si tu viens, mettons, de Montréal, ben tu peux y aller à ce collège-là. C'est des gens d'un peu partout au Québec, tu sais.
Fait que Benoît Letarte, parle-nous du Collège des Hauts Sommets. Qu'est-ce qui fait en sorte que Audrey m'en parle, puis j'ai le goût d'y aller moi-même?
Le Collège des Hauts Sommets, c'est une petite pépite de la région. Hein. On est à Saint-Tite-des-Caps. C'est vrai, on est peu connu. On n'est pas un institut. Ça fait pas des années non plus qu'on existe. Hein. Ça a été fondé en 2001. On est devenu une coopérative de travailleurs en 2003. C'est une des premières choses qui a fait qu'on a pris cette mission-là. C'est que nous, chaque enseignant, chaque membre du personnel laisse une partie de son salaire pour continuer, pour permettre à l'école de continuer.
Ah oui, tu laisses une partie de ton salaire à l'école pour que ça puisse profiter pour le milieu de vie des élèves.
Oui.
Wow, OK.
C'est un don de soi pareil. Hein?
Vraiment?
Oui, absolument. Bien, puis en même temps, bien, ça fait que en tant qu'employé, en tant que membre du personnel, tu n'as pas le choix d'être ultra impliqué. Tu veux que ça fonctionne, tu veux qu'on continue à aller de l'avant, tu veux qu'on fasse la différence dans la vie de ces jeunes-là. Donc ça, c'est une des premières choses qui nous distingue. La chose qui nous distingue aussi, vous le disiez en intro tantôt, on a une résidence scolaire.
Ouais.
Il reste 7 écoles au Québec avec des résidences scolaires. Mmh. Puis nous, on est la seule école qui a une résidence scolaire qui a un peu cette vocation-là d'aller vers les jeunes qui ont plus de difficultés. J'aime pas le mot difficulté, je préfère utiliser le mot défi. Tu sais, on peut passer par-dessus plusieurs choses dans une vie, on peut aller chercher des outils, puis nous, ben, on est là pour les outiller. Donc, on a une résidence scolaire, puis on est une très petite école, on est à 105 élèves en ce moment, là, pour vous donner une idée.
105 élèves. Comment ça fonctionne, le Collège des Hauts Sommets? Moi, je suis un parent, j'ai un enfant que je pense qu'il pourrait bien évoluer dans ce milieu-là. Je commence par quoi?
Le processus d'admission, il est simple et compliqué à la fois, mais en même temps, je vais vous expliquer pourquoi qu'on met tout ça en place. La première étape est super simple. On va sur le site sur le site web du collège. Il va avoir un petit formulaire de 3 questions à remplir et ça arrive chez nous. Une fois que ça rentre chez nous, là, à ce moment-là, il y a quelqu'un chez nous qui va vous appeler pour un premier contact. Nous, on veut vous parler. C'est pas une question de formulaire, c'est pas des bulletins qui rentrent par la poste, on veut se parler. Première des choses, si après le premier contact, on se rend compte, OK, le jeune a vraiment des chances de bénéficier de nos services, là, à ce moment-là, on va vous demander d'envoyer 2 questionnaires, un par le jeune, un par le parent. Bien sûr, bon, le standard, les 2 derniers bulletins. Et vous allez être invité à visiter le collège, et c'est obligatoire.
OK.
Lors de la visite du collège, bon, on découvre le milieu de vie, on répond aux questions des parents, parce justement, des résidents scolaires, il n'y en a plus beaucoup, puis on se cachera pas qu'il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. Et ensuite de ça, ben, on va rencontrer, il y a un intervenant qui va rencontrer individuellement la famille pour qu'on puisse avoir le vrai portrait. On ne veut pas interpréter des chiffres sur un bulletin. Pourquoi il y a telle difficulté? Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années pour que vous veniez qu'à appliquer chez nous?
C'est très humain, là.
Très, très.
Et puis les jeunes qui viennent chez vous ne sont pas obligés d'aller en résidence, j'imagine?
Non, on a, nous, ce qu'on appelle les externes. Là, il y a à peu près 80-85% des jeunes qui sont en résidence, puis d'autres, ben, c'est des jeunes du coin que les parents viennent porter à chaque jour.
Okay. Donc, il y a une étude rigoureuse qui est faite sur la compatibilité des parents versus le collège, la compatibilité des enfants versus le collège.
Oui, exactement. T'sais, on veut être sûr que ce qu'on offre va faire une réelle différence dans la vie du jeune. Puis en même temps, ben, nous, les groupes, bon, il y a le groupe de secondaire 1 que lui, il est nouveau à chaque année, mais les autres, tu sais, ils restent chez nous souvent jusqu'en secondaire 5. Donc, ouais. Si on rentre quelqu'un en secondaire 2 en cours de route, bon, ben, est-ce que ce jeune-là va fitter dans le groupe? Mmh. Est-ce que lorsqu'il va arriver, on va réussir à garder les mêmes résultats? Parce que la dernière chose qu'on voudrait, ce soit que des jeunes perdent des services parce qu'on a rentré quelqu'un à un moment qui n'était peut-être pas opportun.
Fait qu'un parent, mettons, qui se rend compte en secondaire 3 que son enfant a vraiment des grosses difficultés, pourrait tenter l'application chez vous pour qu'il finisse son secondaire de façon plus encadrée. Là.
Oui, absolument. C'est sûr que lorsqu'on essaie de rentrer en secondaire 2, 3, 4, 5, des fois c'est un peu plus difficile parce que les groupes sont déjà formés. Il y a très, très peu de roulement d'année en année. Mais oui, il y a toujours une chance. Puis il y a une liste d'attente, là, bien sûr, là, sur lesquelles les parents peuvent se mettre. Là.
Puis là, un jeune, tu sais, je pense aux parents, mettons, qui nous écoutent puis qui se disent « Mon enfant peut tu fitter dans le collège? » Tu sais, c'est quoi les défis que la majorité de vos jeunes ont? C'est quoi les défis que vous aidez? Finalement, je sais pas si c'est une question qui est claire. Je vais pas dire difficulté.
Ben,
tu peux dire difficulté.
Non, non, mais tantôt, on a dit que défi était plus beau. J'essaie de rester dans la...
Ben, ça, il y a pas de problème. C'est des défis ou difficultés. Mais tu sais, en fait, il y a pas une chose dans laquelle on est plus spécialisé. Puis en fait, pour avoir un équilibre dans le groupe, faut pas que tout le monde aille le même
trouble.
Ouais. On peut pas avoir juste... Si la personne a des difficultés d'apprentissage en mathématiques, ben on peut pas avoir un groupe qui a juste de la difficulté en mathématiques. Là.
Ouais.
Le prof de maths, il va trouver ça dur.
Ça va être complexe.
C'est ça. Fait que là, tu sais, nous, on essaie de trouver un équilibre là-dedans. On a des jeunes qui, au niveau académique, sont hyper, hyper performants, mais c'est au niveau social que, bon, ça peut être un trouble anxieux. Ça peut être un peu plus en adaptation. Fait que là, à ce moment-là, ben, tu sais, on joue avec un peu l'équilibre du groupe en mixant. C'est sûr que tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, bref, tous ceux qui ont des difficultés de lecture ou d'écriture, on a une très, très, très grosse expertise là-dedans.
Ah oui.
Beaucoup, beaucoup d'expertise aussi avec les jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Même, on a des projets en ce moment sur la table pour avoir éventuellement dans la résidence des chambres spécialisées pour ces jeunes-là. Là.
OK. Mais quand on parle du spectre de l'autisme, il y a plusieurs catégories. Il y a Asperger qui sont très fonctionnels. Il y en a d'autres qui sont plus intenses, qui ont un peu plus de difficultés et qu'on doit aider. Dans une classe, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs élèves?
Oui, absolument. Puis même, tu sais, comme nous, en ce moment, on a 2 élèves qui ont même des chiens Mira pour les accompagner à travers leur trouble.
C'est des non-voyants?
Non, ils ont un trouble du spectre de l'autisme. C'est des chiens qui sont là un peu pour venir calmer le côté anxieux et tout ça.
Ah.
Et je vais vous conter une histoire qui est formidable. Lorsque le premier jeune, le plus vieux, c'est 2 frères. Lorsque le plus vieux des 2 frères est arrivé chez nous, nous, c'était une première de notre côté. Puis à un moment donné, le jeune, justement, dans son cours, il s'est senti un peu anxieux. Bref, il avait besoin de son chien à ce moment-là, qui était à côté de lui. Le jeune s'est levé. Il s'est couché au sol. Le chien est venu le rejoindre.
Mais voyons donc.
Puis il n'y a absolument aucun élève. Le prof a continué son cours comme si de rien n'était. L'élève était en classe, continuait d'entendre les enseignements. Le jeune n'a pas eu besoin d'être sorti du cours. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a eu aucun jugement. C'est vraiment beau, l'unité. Le fait que ça devient une deuxième famille hein, pour eux, fait que ils s'aiment un peu comme des frères et sœurs.
Ouais, bon, tout le monde se connaît.
Comme des frères et sœurs, ils ont quelques chicanes, mais c'est totalement gérable.
Mais Benoît Letarte, je vais te dire quelque chose. Là. Le parent des deux jeunes est à l'écoute présentement.
Oui.
Il vient de m'écrire.
Arrête!
Il me dit qu'il aime beaucoup ce collège-là. Il semblerait que le collège fait une différence dans la vie de ses enfants, puis il vous en est extrêmement reconnaissant de ce que je comprends.
Mais c'est fou parce que souvent, quand on parle de notre système d'éducation, tu sais, c'est difficile de s'adapter à des jeunes qui ont des difficultés parce qu'on manque énormément de ressources. Tu sais, moi, ma tante, elle est prof au primaire, puis elle a des jeunes dans sa classe qui ont de grandes difficultés, mais elle n'est pas travailleuse sociale, elle n'a pas les études pour gérer des jeunes qui ont ce type de troubles ou de défis. C'est quelque chose qui devient difficile parce que tu te ramasses avec des grandes classes où c'est pas bon pour le jeune, c'est pas bon pour toi non plus comme enseignant, c'est difficile pour les autres élèves qui, eux, sont à un rythme peut-être un peu plus régulier. Fait que de voir que la possibilité d'avoir une école, un collège qui s'adapte vraiment aux jeunes, je trouve ça tellement le fun, là.
Oui, puis en fait, le côté souvent qu'on entend, il manque de ressources ou tout ça, puis en ce moment, il y a un réel manque de ressources en éducation pour plusieurs raisons. Nous, une des forces du collège, c'est qu'il y a toujours deux adultes dans la classe. Il y a l'enseignant et il y a l'intervenant de niveau. Et ils n'ont pas le même rôle. L'enseignant, lui, il rentre, il enseigne. C'est sa job. Puis, il livre sa matière. Le jeune qui a une difficulté, le jeune qui vient perturber le cours, l'intervenant de niveau, il est là. C'est sa job. Lui, il est vraiment plus à ce niveau-là. Donc, ça permet vraiment à l'enseignant d'être 100% là-dedans. Et ça fait que si on a un jeune qui est moins apte à avoir des enseignements cette journée-là ou qui cherche à perturber le cours, l'intervenant de niveau va tout de suite prendre les mesures et le reste du groupe va être moins impacté par ce jeune-là qui vient déranger.
J'aime ça. Parle-moi un peu de la sécurité de nos enfants qu'on envoie au collège des Hauts-Sommets. Comment ça fonctionne concrètement, l'hébergement? Puis peut-être qu'on peut parler des coûts, là, parce que moi, je suis un gars qui aime bien savoir comment ça coûte. 418-971-101, si vous avez des questions pour Benoît Letarte. Mais commençons par la sécurité qui entoure le collège, parce que les parents ne sont pas présents, là.
Absolument. Bien, il faut savoir, d'un, géographiquement parlant, où est-ce qu'on est situé, on est l'école au Québec, au Canada, et je suis prêt à défier le monde entier, qui a la plus belle vue. On est dans un rang. En fait, on devrait l'appeler le rang de la montagne. C'est l'avenue de la montagne à Saint-Tite. Ouais. On est sur le dessus de la montagne. On a la vue sur la grosse île en avant de nous.
Oh, ouais.
C'est à perte de vue. On a très, très peu de voisins. Donc, en partant, tu sais, on n'est pas dans un coin de...
C'est paisible.
C'est dans un endroit isolé. Là.
Vraiment isolé. Après ça, bien sûr, les jeunes ne sont jamais laissés eux-mêmes. Le soir, de jour, c'est les intervenants de niveau pendant la période de classe. Et le soir, ça va être les intervenants en résidence qui sont là. On a une résidence garçon, une résidence fille.
Essayes-tu de se voir des fois, les deux?
Je ne cacherai pas que oui, on a quelques amourettes de printemps. Là, surtout quand le soleil ressort au printemps. Là.
Ils se parlent par les fenêtres, quoi.
Mais il y a quand même une distance entre les deux. Puis bien sûr, les intervenants sont là pour gérer ce genre de situation.
Wow.
Bref, il y a des intervenants en tout temps. Il y a des intervenants de nuit aussi qui sont là. Donc, les jeunes ne sont jamais laissés à eux-mêmes. Il y a énormément de caméras. Sur le terrain de l'école, il y a un skatepark. L'hiver, on a un snowpark. On a deux terrains de volley. On a un terrain de basket. On a une patinoire. On a un parcours à obstacles qu'on appelle le parcours du persévérant, qui est un peu style Ninja Warrior. Là.
Ouais.
Après ça, dans la salle commune, il y a un salon étudiant. On a une salle de musique. On a un technicien en vie étudiante qui est là aussi pour les animer. Les jeunes, là, ils en font des activités.
C'est pas emmerdant.
Ils ont toujours quelque chose à faire.
Ils ont tout le temps quelque chose. Moi, s'il y en a un qui dit qu'il n'y a rien à faire, puis à travers ça, le soir, ils ont accès à des périodes d'études qui ne sont pas obligatoires. La période d'études obligatoire est dans le jour. Fait que le soir, quand les cours finissent, il n'y a pas de devoir.
OK.
Donc, ils ont quand même accès à pouvoir étudier pour ceux qui en désirent. Des fois, on en a qu'on va fortement leur recommander. Puis, À travers ça, bon, ben, je pense à ma collègue, Mme Caron, qui a une activité qui s'appelle le cuisto. Donc, elle initie les jeunes à la cuisine. Elle va les emmener, on va régulièrement dans un organisme qui a des frigos communautaires, faire des batchs de pâtes, des batchs de sauce pour remplir les frigos. Là, d'ailleurs, on se prépare à faire 300 portions, là, je pense, la semaine prochaine avec nos jeunes. Fait qu'il y a toujours de quoi à faire au Collège des Hauts-Sommets. Ouais.
Pour... Ils participent au milieu de vie aussi, au repas. Je trouve ça franchement intéressant. Y a-tu, moi, j'ai bien de la problématique à gérer les jeux vidéo chez nous. Là. Mm-hmm. Y a-tu des jeux vidéo là-bas?
Il y en a. Okay. Il y a des périodes. Les jeux vidéo, tu sais, quand je pense à la résidence, résidence B, c'est la résidence où on a les garçons plus vieux, donc ouais. Secondaire 3, 4, 5, on a des consoles. Ils sont dans la salle commune, l'intervenant à résidence, il est là.
Ils gèrent les consoles.
Ils gèrent ça. On a quelques ordinateurs, même chose, ça va être géré. Et nous, au niveau des appareils électroniques, ben, le soir, quand ils vont se coucher, tous les appareils électroniques doivent être remis à l'intervenant de nuit. Ils n'ont pas accès aux tablettes, ils n'ont pas accès au téléphone la nuit. S'ils veulent téléphoner à leurs parents, ils peuvent. Ils vont aller voir l'intervenant de nuit qui va lui fournir un bon vieux téléphone à fil. Puis ils vont appeler les parents. Puis ben, dans le jour, un peu même principe, lorsqu'on rentre dans chacune des classes, là, il y a comme des petites pochettes avec chacun des noms. Chacun laisse son téléphone à l'intérieur. On met une couverte par-dessus pour pas qu'ils voient les notifications arriver pendant le cours. Puis pendant le cours, il n'y a aucun téléphone
cellulaire accessible. Se concentre sur l'enseignement.
Les dortoirs, ça fonctionne comment?
C'est des chambres de 2 à 6 jeunes. C'est, comme on disait, gars-filles. Puis aussi au niveau des... Les résidences sont toutes sur 2 étages. Fait que normalement, les plus vieux sont en haut, les plus jeunes sont en bas. Puis on se cachera pas. En secondaire 1, souvent, on fait des mix. Bon, ça va être qui va être compatible ensemble. Mais on trouve toujours un mix possible. Une des choses qui est arrivée, qui est très drôle, l'année passée, je crois, on fait une visite d'admission, la fameuse visite obligatoire, on est dans la résidence. Puis à la fin des explications sur la résidence, mon collègue, il laisse toujours quelques minutes pour aller dans les chambres, aller voir les douches, bref, pour que les parents puissent visiter librement la résidence. Puis il y a une mère qui vient le voir un peu inquiète, qui disait, moi, mon fils, c'est un enfant unique, puis il n'a jamais partagé, il n'a jamais eu personne dans sa chambre, puis... Elle dit, je vois pas comment il pourrait être avec d'autres personnes. Je pense que je vais reculer sur l'inscription. Fait que ça reste comme ça. Il change de local pour la visite. Mon collègue est complètement en avant. La mère reste en arrière. Le petit gars pique une course pour aller rejoindre mon collègue. Il tire sur la main. Il dit, monsieur, il dit, j'aimerais vraiment ça avoir des amis dans ma chambre.
Oh mon Dieu, la perception, hein?
Ah oui,
c'est bien drôle.
Là, il a dit, ben, je pense qu'il faudrait que tu parles un petit peu avec ta mère. Là.
Mais souvent, les parents vont livrer leur propre peur.
Ben oui,
Ils vont utiliser leur enfant pour dire, ouais, c'est un enfant unique. Là.
Il n'aura peut-être pas
le
ça.
Le parent veut avoir sa chambre à lui tout seul. Il ne veut pas être avec d'autres parents. Donc, il va dire, ouais, mon fils, il ne voudrait pas non plus être avec d'autres enfants. Là.
C'est spécial, pareil.
Oh, ouais, c'est spécial.
Hein? Oui. Il y a quelqu'un qui nous dit au 88-97-101, pour la rive sud Saint-Lambert, est-ce qu'on est éligible? Ça me parle tellement. J'ai comme envie d'élargir la question. Y a-t-il des limites où vous acceptez pas quelqu'un géographiquement?
Aucune limite. Dans le fond, il faut que le jeune puisse être scolarisé au Québec au niveau citoyenneté et tout. Mais sinon, il n'y a aucune limite. En ce moment, j'ai un jeune de Sept-Îles. J'ai un jeune de Saint-Bruno de Montarville.
OK.
J'ai un jeune qui vient de Gatineau. En ce moment, on a des jeunes qui proviennent, si je me souviens bien, de 36 municipalités différentes.
Puis comment ça fonctionne? On va-tu les porter le dimanche soir?
En fait, ils arrivent le dimanche soir.
OK.
On a un service d'autobus qui part de Québec. Fait qu'il faut minimalement rendre le jeune à Québec. Là, d'ailleurs, on a un point de chute pas loin d'ici. Donc, à partir de là, ils sont emmenés jusqu'au collège. Ils arrivent le dimanche et ils vont repartir le vendredi après-midi ou le jeudi après-midi si des fois, on s'ajuste en fonction des journées pédagogiques.
Puis vous les ramenez à Québec.
On les ramène à Québec. Il y a une entraide incroyable entre nos parents aussi. Je pense à mon jeune qui vient de Gatineau. C'est compliqué pour lui de retourner à Gatineau à chaque fin de semaine. Il dort chez un de ses amis. Les parents, ils ont pris une entente ensemble. Fait que quand la fin de semaine, c'est une fin de semaine de 2 jours, il va chez son ami pour la fin de semaine. Quand c'est une fin de semaine longue, il retourne dans la région
Gatineau.
De Gatineau.
Okay.
Fait que, il y a vraiment... T'sais, d'ailleurs, t'sais, ça, c'est quelque chose que je souligne. Les parents du Collège des Sommets, ils se sont même créé un groupe pour s'entraider. C'est vraiment magnifique, là, l'effet de communauté que ça l'emmène.
Mais ils doivent se partager des trucs, veux pas. T'sais, quand tu rencontres un autre parent qui a que son enfant a un peu les mêmes défis que le tien, j'imagine qu'à un moment donné, il y a un échange naturel qui se fait aussi, là.
Ouais. Ben oui, absolument. Ben, tu sais, les gens sont solidaires, ils s'échangent des trucs, des services. Justement, on fait un lift, on a une équipe de basket. Bon, ben, s'il y a un parent qui va à la game de basket, ben, ça se peut qu'il ramène le jeune d'un autre. T'sais, bref, tout le monde s'entraide là, dans cette situation.
La nourriture, comment ça fonctionne? Bon, on t'a parlé tout à l'heure qu'on faisait des batchs de spaghettis et tout ça, mais est-ce que c'est eux autres qui s'occupent de leur propre déjeuner?
Non, on a un service de cafétéria qui fait les trois repas principaux par jour, donc déjeuner, dîner, souper. D'ailleurs, on mange extrêmement bien. Moi, je prends énormément de poids depuis que je travaille là-bas. Il faut que je contrôle ça un petit peu. Mais bref, à tous les repas, ils ont deux choix. Au déjeuner, tu as deux choix. Au dîner, tu as deux choix. Au souper, tu as deux choix. Nous aussi, ça nous donne beaucoup d'impact sur les jeunes qui ont des troubles alimentaires. Parce que si tu n'as pas mangé, on le sait.
Exact.
C'est sûr que tu arrives dans la classe avec un repas dans l'estomac. Puis un jeune qui a l'estomac plein est beaucoup plus enclin à avoir des nouveaux apprentissages. Donc, ça nous permet là-dessus. Après ça, ben, dans chaque résidence, ils ont des frigos. Ils peuvent emmener des collations de la maison. Les collations humides, nous qu'on appelle, là, tout ce qui est yogourt, tout ce qui est plus à risque de dégâts, ben, ils les mangent dans le salon pour que s'il y a un dégât, on s'en rende compte. Puis une barre tente, ben, ça, ils peuvent avoir ça dans la chambre, avoir quelques collations. Okay. Là, ça, il n'y a aucun problème.
Mais j'imagine que quand ils arrivent en secondaire 1, ils n'ont pas beaucoup d'autonomie. Puis très vite, ils apprennent l'autonomie au collège. Là.
Énormément, ben, c'est sûr et certain. Puis là, tu sais, ça... Quelque chose qui est formidable, c'est qu'on a le programme aussi de père aidant. Donc, quand les jeunes rentrent, ben on peut le jumeler. Si on voit qu'il y a certaines difficultés, on va le jumeler, pas nécessairement avec un intervenant, on peut le jumeler avec un plus vieux. Hey, lui, il est en secondaire 1. Toi, tu es en secondaire 2. Tu as vécu ce qu'il a vécu. Il va être dans ta chambre cette année.
Je comprends.
T'sais? Fait que justement, les jeunes s'entraident comme ça. Puis sinon, ben, c'est sûr et certain que autant au niveau pédagogique que service aux élèves, il y a possibilité de demander des mesures d'appui ou des mesures de soutien supplémentaires. Si, admettons, je sais pas, le jeune, prendre la douche à la maison, c'est un peu plus compliqué. Il y a possibilité que la travailleuse sociale ou l'intervenant en résidence, ben, il s'assure que la douche est prise à chaque jour. Là.
Mmh. Je comprends. Comment ça coûte tout ça quand je veux envoyer mes enfants au collège des Hauts-Sommets? Bon, c'est un endroit où mes enfants peuvent dormir en semaine, puis par la suite, la fin de semaine, vous partez de Saint-Tite-des-Caps et vous les ramenez ici à Québec sur un point de chute qui est déterminé d'avance. Il y a des frais associés à ça? C'est quoi? C'est 50 000 $, 100 000 $ par année?
Non, on n'est pas à Harvard encore. Vraiment, à ce niveau là, on parle au niveau des frais. C'est variable parce qu'il y a des choses qui changent là, justement au niveau des suivis, des appuis. On parle entre 11 000 et 15 000 $ par année scolaire.
Par année.
Et à ça, ben là-dessus, bon, les frais en résidence, ça passe un peu comme un frais de service de garde au niveau du rapport d'impôt. Donc, jusqu'à 16 ans, les parents peuvent le mettre sur le rapport d'impôt. Puis, c'est ça. Ça joue entre 11 et 15 en fonction de c'est quoi le cours d'option que le jeune a choisi, c'est quoi l'appui pédagogique qu'il va recevoir, est-ce qu'il va avoir un encadrement en dehors des cours. Mais vraiment, là, on est là-dessus.
Y a-t-il une possibilité? Tu sais, exemple, je suis un parent qui n'a pas nécessairement les plus grands des moyens pour envoyer mon jeune, mais mon jeune a vraiment besoin de vos services. Y a-t-il moyen de moyenner d'une certaine façon? Tu sais, je veux qu'on en parle. Je sais que vous avez la fondation. Est-ce que ça peut venir aider à ce niveau-là? Comment vous fonctionnez dans ce temps-là? Parce que c'est sûr que ça arrive. Là, on entend tellement parler du portefeuille qui rush, mettons, dans les dernières années.
Absolument. Ben, en fait, ben, écoute, c'est exactement mon travail. Là-dessus, il faut savoir qu'à chaque année, on remet des bourses d'études pour que les jeunes puissent venir chez nous. Donc, il y a possibilité de faire une demande de bourse à la Fondation. Malheureusement, la Fondation n'a pas nécessairement les moyens de couvrir 100% des frais de chacun des jeunes, mais on fait toujours au maximum de nos moyens. Puis aussi, ben, avec le service de comptabilité, c'est pas en un seul paiement là, qu'on le demande. Il y a possibilité de prendre une entente de paiement sur l'année pour être en mesure là, que ça fitte dans le budget. Mais oui, absolument, on a un programme de bourse là, cette année. Vous voyez, c'est plus de 50 000 $ qui ont été remis en bourse d'études. Là.
Le taux de diplomation que vous avez au collège des Hauts-Sommets?
On est autour de 90 %. Ça varie d'une année à l'autre, bien sûr. Ça aussi, on en est très fiers. Puis, en fait, ce qui nous rend le plus fiers là-dedans, c'est que malgré l'ensemble des défis qu'on va rencontrer au cours des 5 années où ce que le jeune est avec nous, ce qu'on lui délivre, c'est un diplôme d'études secondaires valide du ministère. C'est pas un parcours alternatif. Ça l'ouvre les mêmes portes que les autres. J'ai des jeunes qui font leur maths forte, j'ai des jeunes qui font leur science forte.
Parce que c'est le parcours d'éducation que tous les autres jeunes au Québec font. Absolument. Finalement.
On offre les mêmes cours que n'importe quelle autre école secondaire au Québec.
C'est capoté. Hein.
Les activités parascolaires, là, j'ai vu qu'il y en avait plein. Là. Moi, c'est sûr et certain que je vois le hockey qui m'intéresse beaucoup pour mes gars parce que quand ils vont voir ça, ils vont dire c'est ça qu'on prend. Vous avez du deck hockey aussi. Il y a du ski qui est possible dans ce secteur où c'est possible de faire du ski aussi. Comment ça se passe?
Oui, en fait, chez nous, tous les jeunes sont obligés de choisir une option. Il n'y a pas, souvent dans les écoles secondaires, on a le parcours régulier, ouais. On a le parcours avec option. Nous autres, ils ont tous une option, c'est ouais. obligatoire. Et tu ne peux pas être sorti de ton option à cause de ton rendement. Il n'y a pas de notion de performance pédagogique ou de performance dans ton sport ou dans ton option, là, parce que nos options ne sont pas tous des sports. L'option la plus populaire, bien sûr, c'est l'option ski. Avec notre proximité avec le Mont-Saint-Anne, c'est sûr que ça, c'est bien, bien, bien trippant pour les jeunes. On a l'option cuisine qui est très populaire. On a l'option hors plastique. On a des jeunes qui sont en multisport. Donc ça, moi, c'est l'option qui me fait tripper parce qu'à chaque semaine, ils font un sport différent. Ça, c'est complètement malade.
Ben, il se développe là, en tant qu'athlète. Là. Quand oui. tu fais un sport différent chaque semaine, c'est clair et net que ça va l'améliorer.
Oui, absolument. Puis ça, le jeune développe un paquet de nouvelles passions. Là, ouais.
Mais c'est ça, j'allais dire, au-delà du sport, c'est que t'es comme... Je trouve qu'obligé, ça sonne comme si on te coince, mais c'est qu'on t'offre l'opportunité, en plus de faire tes études, de faire autre chose. T'sais, dans un cadre régulier, là, soit par manque de moyens financiers, mais t'as des jeunes qui ont comme pas de passion sur le côté. Là, ils vont à l'école, puis la fête de semaine sont avec leurs amis, mais ils développent pas autre chose. Je trouve ça intéressant, ça.
Au secondaire, dans notre temps, il y avait l'option là, éducation physique, mais banc du gymnase.
Oui, moi, j'étais tout le temps là.
les filles, c'était comme l'option qu'ils choisissaient. Ils étaient 10, puis ils voulaient pas jouer au hockey parce qu'on était trop intense.
C'est ça, exact.
Ça existe pas, au collège.
Alors, ben, tu sais, c'est sûr et certain qu'on a le... Comment je pourrais dire? Dans les cours d'éducation physique, c'est pas tout le monde qui est sportif au même niveau.
Ouais.
Mais, tu sais, quelqu'un qui veut faire du ski chez nous, là, il va à tous les mardis après-midi, il est en ski en cours d'option. Nous, les mercredis après-midi, il n'y a jamais d'école. Donc, à tous les mercredis, il y a une bus qui part au ski en après-midi.
Ouais.
Puis on est en ski un à deux soirs semaine en plus.
Ah, les enfants doivent détester ça au possible.
Ah oui, ça a l'air tellement plate.
Ça a l'air plate.
Hey, je suis juste curieuse parce que je veux qu'on revienne aux résidences parce que tantôt, Benoît, t'as dit quelque chose qui a comme un peu titillé mon oreille. Là. T'as dit que vous alliez adapter éventuellement des chambres pour les jeunes qui ont un trouble de l'autisme, par exemple. C'est quoi le type d'adaptation que ça prend? Ça a l'air niaiseux comme question. Là, mais.
Oui, ben, en fait, en partant, tu sais, on se ramène à l'adolescence. Est-ce qu'on avait tous la chambre la mieux rangée du coin. C'est sûr que nous, on fait une petite surveillance là-dessus. Mais en partant, ça va être des endroits dédiés. Donc, ça, c'est études. Ça, c'est dormir. Ça, c'est ton linge. Après ça, bon, ben, est-ce que un ajustement au niveau des couleurs de mur pour avoir quelque chose de plus apaisant? La possibilité d'avoir accès à des couvertures lourdes.
OK, pour l'anxiété. Pour ça. Okay.
Après ça, je sais qu'il y a certaines horloges, justement, qu'on peut programmer où ce qu'il peut voir, bon, OK, c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi la prochaine chose qui s'en vient. C'est un paquet de petites choses comme ça qu'on tente là, de mettre en place en ce moment là, avec la Fondation. Ouais.
Oui, mais c'est ça, exact. Ce que vous faites à la Fondation, c'est que vous ramassez des fonds constamment pour aider ces jeunes-là.
Oui, absolument. En fait, c'est d'aider les familles, c'est d'aider le collège. Donc, tantôt, je parlais du programme de bourse. Cette année, on a acheté aussi du matériel sportif. On appuie l'équipe de basket. On va aller aider la vie étudiante, les services aux élèves. Moi, à partir du moment... En fait, c'est pas compliqué. Le collège, il y a un besoin. Il rentre dans mon bureau. On monte le projet ensemble. Puis moi, ben, après ça, je me mets à la recherche du financement pour ces projets-là.
Le skatepark vient, entre autres, de la Fondation des Hauts Sommets. Le parc informatique aussi que vous avez pour les élèves vient de là. Les salons des étudiants, salles de musique, Desjardins. Non, ça, vous avez du stock en tabarouette. Là. Il y a quelqu'un qui dit que ça ressemble pas mal plus à Poudlard.
Je suis d'accord. Ben oui, c'est magique.
Ma fille, elle l'appelle Poudlard. Moi, ma fille n'est pas encore au secondaire, mais des fois, elle m'accompagne au travail. Puis ça, c'est le parallèle qu'elle m'a fait, là, oui.
Peux-tu nous parler, Benoît, d'une soirée au sommet?
Oui, absolument. Une soirée au sommet, c'est dans le fond, c'est un événement qui a lieu jeudi la semaine prochaine. Il reste très, très peu de billets, mais je vous en parle parce que sérieusement, c'est l'occasion de venir découvrir la cause. C'est la grosse soirée de la Fondation. C'est là qu'on ramasse le plus de sous dans l'année. Donc, on peut faire un don. On peut acheter un billet sur le site là, du collège. Ça va se passer au Manoir Montmorency le 20 mars prochain, en mode cocktail dînatoire. On a un menu inédit pour cette soirée-là que l'équipe nous a contacté. Et moi, le plus intéressant, c'est la première partie. Il y a l'exposition Les Persévérants. On va avoir une quinzaine de jeunes du collège qui vont être là pour vous parler, eux, c'est quoi qui les fait continuer leurs études. C'est quoi qui les motive à continuer. Et là, on va aller un peu partout, autant de la mission humanitaire au Guatemala qu'on est en train de monter que l'accompagnement personnalisé.
Mission humanitaire au Guatemala, vous amenez les jeunes là-bas?
Oui, on s'en va là en 2026. On s'en va avec une vingtaine de jeunes au Guatemala. On va faire du bénévolat dans un orphelinat là-bas.
Moi, j'espère que tu sais, Benoît, que si jamais je fais plus de radio, je cherche un emploi
au collège.
Non, mais pas comme étudiant, mais je me dis comme écoute, il faut que je sois quelque part là-dedans. Là.
Absolument. Ben, on pourra partir une radio étudiante, peut-être.
Ben, regarde, je vais être là. Parfait. Je vais enseigner la radio sans problème.
Parfait. Benoît, pour les parents qui t'écoutent jaser depuis quelques minutes du Collège des Hauts Sommets, visiblement, ça semble beaucoup les intéresser. Là. Ils font quoi pour s'informer? Ils vont directement sur votre site web, collegedeshautssommets.com?
Oui, exactement. Il va y avoir une section demande d'information. On remplit le petit formulaire. Il y a aussi le numéro de téléphone, bien sûr, là, qu'ils peuvent nous appeler directement s'ils veulent des informations. Ça va nous faire plaisir de répondre.
Bien, nous autres, ça nous a fait un plaisir de te recevoir.
Vraiment.
Merci à vous. Salutations à toute la gang des Hauts Sommets. Puis je salue les parents là, qui t'écoute parler avec une grande attention du collège où vont leurs enfants. Je trouve ça le fun. Le monde est petit, pareil.
Hein? Et ça n'a pas de bon sens.
Vraiment. Merci, Benoît.
Merci.
11h07, on s'arrête. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021.
Le tout nouveau Taos 2025 est à...
Ah, cette belle discussion avec Benoît Letarte, qui est responsable de la Fondation des communications du Collège des Hauts-Sommets.
J'ai tellement d'admiration pour ces gens-là qui veulent faire la différence.
Des vocations.
Ah, oh, c'est capoté.
Des gens qui font un métier qui va faire en sorte que tu vas peut-être changer la vie de petits individus qui n'auraient peut-être pas eu le même chemin si tu n'étais pas passé dans leur vie.
Puis des jeunes qui sont un peu le futur demain quand tu y penses, puis de savoir que les enseignants, les travailleurs sociaux, les intervenants donnent une partie de leur salaire pour que le projet fonctionne. Tu sais, c'est un vrai don de soi, là. Il faut que ça tente de faire la différence.
Moi, j'ai essayé l'an passé d'en parler à la mère de mes gars. Elle était plus ou moins à l'aise avec ça parce qu'elle disait « c'est mes bébés, je veux pas les laisser partir ».
Parce que toi, tu voulais les envoyer dans le dortoir, là. Tu les envoyais en résidence.
En résidence, ben, à Saint-Tite, oui, effectivement, ça aurait été en résidence. Mais je sais que, ben moi, c'est le genre de choses que j'aurais aimé avoir quand j'étais jeune. Puis mon plus vieux, c'est quelqu'un qui est très autonome, là. Tu sais, pour te donner un exemple, là, il est allé en croisière avec sa mère. Il s'est fait des chums sur le bateau, puis à tous les soirs, il était avec sa carte, il était avec ses amis sur le bateau, pas en présence de sa mère, il a 11 ans.
Oh mon Dieu, il fait ses chums.
Ouais, ils se sont fait comme une petite confrérie sur le bateau, puis il s'amusait, puis à minuit, il arrivait à la chambre, puis il passait sa petite carte, puis il allait se coucher à côté de sa mère puis de son frère. C'est quelqu'un qui évolue beaucoup dans un milieu où il faut que ça bouge.
Ouais.
Puis quand ça bouge un peu moins, mettons dans un cours de français, là, lui, il a un petit peu plus de difficulté à aimer le cours, tu sais. Mais s'il est avec ses chums et tout ça, puis il y a des... tu sais, tu peux faire tes activités le mercredi après-midi, aller jouer au hockey, jouer au décor hockey le soir, des salles communes et tout ça. Je le sais qu'il évoluerait là-dedans comme un poisson dans l'eau. Mais ça, tu comprends que ça faut que tu sois deux pour décider de ça.
Absolument.
Tu peux pas le faire tout seul.
Mais tu sais, je souhaite qu'éventuellement ce modèle-là se transmette un peu partout au Québec. Tu sais, qu'on puisse
beaucoup
en avoir une coupe, qu'on puisse développer ce type de façon de faire-là. Parce que le problème avec le public, c'est que ça doit être partout pareil. Les enseignants et le staff, en fait, dans les écoles, n'ont pas tant son mot à dire sur la façon de faire les choses. Puis envoyer ton enfant au privé, bien, c'est parce que c'est cher aussi. Il y a une latitude un peu plus grande, mais il y a une question de budget. Fait que le Collège des Hauts-Sommets avec la Fondation qui peut donner un coup de main, je trouve que c'est comme le meilleur des deux mondes. Puis je me dis, si on est capable d'étaler ça, on donne plus de possibilités à nos jeunes. Je trouve ça fantastique parce que malheureusement, pour certains jeunes, c'est pas adapté ce qu'on donne en milieu scolaire en ce moment.
Ouais. Hey, dernier sujet de la journée, je veux te parler de ça. T'es-tu tanné d'avoir des courriels?
Oh, tabarnouche. Hé, mon Dieu, si tu me parles là-dessus. Combien? Tu sais que j'ai un moment dans ma journée pour faire un ménage de courriel. J'ai pas le choix de le mettre dans mon agenda.
Je pense qu'on est tous comme ça. Mais les auditeurs, vous consacrez à peu près combien en pourcentage, là, combien d'heures de travail vous consacrez à la lecture des courriels et aux réponses et au tri de vos courriels? Sur, je sais pas, moi, mettons sur 40 heures. Là.
Mon Dieu, ben ça peut être facilement une heure par jour. Là.
C'est une heure par jour. Fait que t'es en bas de la moyenne.
Je suis en bas de la moyenne.
Ouais. Il y a une étude du McKinsey Global Institute.
C'est sûr que nous, on fait de la radio, Yann. Là. C'est dans le sens qu'on ne travaille pas au bureau. Là.
Ouais.
Ça doit faire une différence aussi, là.
Ouais. Mais je sais pas, là, toi, là, mais quand tu vas avoir des enfants, ça va doubler et tripler tes courriels.
Avec les écoles.
Oui, votre petit Joshua n'a pas mangé son assiette au grand complet. Merci!
<cute. rire> Ah, c'est à ce point-là!
Ouais, votre association de hockey a décidé de te la faire. Merci!
Ah, tabarnouche!
Ouais. C'est plus facile avec Messenger, j'envoie des pouces bleus. Mais pour les courriels, c'est plus dur, les pouces bleus. C'est à peu près 30 % de ta semaine, si tu fais du travail de bureau, là, c'est à peu près 30 % de ta semaine que tu consacres à lire, répondre et envoyer des courriels. Puis au tri aussi, parce que le tri est super important.
Mais moi, j'ai pas le choix de dire qu'il y a certains courriels que je ne lis plus et que j'efface automatiquement. Je suis comme rendu là, là.
Combien de courriels est envoyé dans le monde à chaque jour? Mes stats sont pas à jour, là. J'ai les ai de 2022, je les ai pas de 2025, mais 2022. Combien de courriels est envoyé chaque jour à travers le monde?
Mais là, moi, je dois recevoir une centaine par jour. Fait que je peux même pas imaginer. Vas-y donc.
Ce serait au-delà du 333 milliards.
Et ça a pas de bon sens, là.
De courriels.
C'est angoissant.
Qui est envoyé par jour.
Ah, ça m'angoisse.
Et ça, c'est les courriels, ça fonctionne 24 heures sur 24. Ben oui. Là, et puis, il y a des entrepreneurs qui font affaire avec d'autres continents, pas sur les mêmes fuseaux.
Tu peux les programmer maintenant, tes courriels.
Tu peux les programmer, mais il y en a qui reçoivent des textos à 2 heures du matin là, pour une commande à tel endroit.
Oui, c'est complètement fou. Mais écoute, je peux même pas imaginer. Là, nous autres, le pire, c'est que dans notre quotidien, on n'en reçoit pas autant probablement que des gens qui travaillent en télétravail ou justement de business, bureau. Nous autres, c'est des affaires de communiquer, tu sais, pour pouvoir vous transmettre de l'information. Puis on en reçoit. Je me plains constamment à quel point, mon Dieu, que la boîte devient pleine en dedans d'une heure. Je peux même pas imaginer les gens qui ne fonctionnent que par ça.
Le délai moyen de réponse à un courriel.
On est rapide, je pense. Je vais dire 5 minutes.
Moi, c'est plus long que ça. Je pense que j'embarque dans les statistiques. Là. Selon les statistiques, le délai moyen de réponse est entre 24 et 48 heures.
Hé, hey, mon Dieu, c'est beaucoup!
Moi, j'aurais rajouté jamais. Ça arrive souvent, là, le jamais.
Toi, tu vois rien. Là. Oui, faut pas compter sur toi et les courriels. Là.
Mais j'en reçois à peu près 400 par jour. Mais là, j'ai de la junk au travers de ça. Là.
Mais c'est ça l'affaire. Sont-ils installés sur ton téléphone?
Je les ai sur mon téléphone, je les ai sur mon ordi.
Ce qui fait que je réponds vite.
Ce qui fait en sorte que je me dis, garde, quand ce sera pressant, là, ils m'appelleront ou ils me texteront.
C'est ça l'affaire. Hein?
Ouais. Parce que là, t'as pas encore compris, toi, non?
On a les courriels. Ben, j'ai pas tant de choix là, à certains niveaux, mais on a les courriels, mais c'est parce que les gens qui travaillent en télétravail, on le savoir, il n'y a pas juste les courriels, il y a les conversations Teams, il y a le Messenger. Là, quand tu as tes réunions Zoom, tu sais, on a plusieurs plateformes sur lesquelles on reçoit des messages aussi. Là. Fait que ça, c'est juste la portion courriel, imagine.
Est-ce que tous les courriels méritent une réponse immédiate?
Non. Ben non, non, je suis désolée, là. Et qu'il y a des affaires impertinentes, des fois, là.
Parfait. Tu fais comment pour décider si ça prend une réponse immédiate ou jamais?
Ben, si ça doit faire avancer ton travail maintenant, dans la prochaine heure, ça nécessite une réponse urgente. Sinon, pour moi, flague-le pas, là.
OK. T'as-tu des moments propices pour répondre à tes courriels?
Oui. Okay. En avant-midi.
En avant-midi?
Oui.
En raison de ton horaire?
Ben, absolument. Puis en raison aussi, je te dirais, de ma concentration.
OK. Il y en a que c'est 2 fois par jour. Il y en a qui arrivent au bureau le matin, puis ils répondent à leurs affaires, puis ils envoient leur courriel. Puis après ça, bien, ils le refont avant de partir le soir. Mm. Ce qui fait en sorte que les personnes... C'est pour ça, de là, le délai 24 à 48 heures. Mais un texto, moi, je réponds à ça en 10-15 secondes.
Ah, bon, c'est la meilleure façon de me rejoindre, là, puis je sais que les collègues n'aiment pas ça, mais moi, c'est Messenger.
Moi aussi.
En tout temps, n'importe quelle heure du jour, n'importe quelle... à la limite, je vais te dire, hey, je suis occupé, je te réponds plus tard. Mais ça, avec la notification, c'est la façon la plus rapide pour moi de fonctionner.
J'ai parlé avec un homme d'affaires il y a de ça quelques jours. Je pense que je t'en avais parlé hors d'onde. Je disais, mais comment tu fais pour gérer tous tes projets? Parce que c'est un gars qui fait de l'immobilier, là, du gros immobilier à Québec. Puis je dis, mais comment tu fais pour gérer tous les dossiers en même temps, que ce soit avec la ville, avec tes employés, avec les compagnies de construction et tout ça? Et dis-moi, quand on m'envoie un courriel, là, c'est pas plus que 5 lignes, parce que en dessous de 5 lignes, là, je ne lis plus et j'avertis tout le monde.
Il est intelligent.
Parce qu'il y en a qui vont t'écrire 3 pages là, pour t'expliquer quelque chose qui aurait pu résumer en 10 lignes.
Ouais.
Ben lui, il a réglé ça assez rapide. Il dit, moi, là, c'est moi le PDG, c'est, là, je vais décider de l'information qui va se rendre à moi. C'est 5 lignes, après ça,
mais
je lis plus.
Mais il a tout compris. Puis ça, là, c'est quelque chose qu'on mentionne pas assez. Ça, c'est comme à l'inverse. On s'entend-tu qu'il y a tellement de réunions qui auraient pu être un courriel? Il y a tellement de moments dans ta journée, de meeting, qui auraient vraiment pu être un envoi de courriel tout simplement. Là. On travaille mal des fois.
Est-ce que tu t'es désabonné des publicités et des infolettres? C'est ce qu'on conseille.
Oui, on le conseille. Moi, en fait, j'ai trois courriels. J'ai un pourriel que j'appelle, là, c'est-à-dire pas une section, mais ce courriel-là, c'est genre mon courriel de quand j'avais 11 ans, là, Dodo 2 PFP, là, avec des affaires bizarres Dodo dedans. Là. Dodo, c'est mes amis m'appelaient de même. 2, c'est mon chiffre chanceux. PFP, c'est pour Dodo. Pollux, Filou, Pistache, mes animaux morts.
Dodo.
Ouais.
On te conseille de te désabonner à toutes tes infolettes que tu ne te sers plus.
Mais moi, ils vont toutes là-dedans.
Tous les jeux. On te conseille aussi pour cesser d'avoir 200-300 courriels par jour, là, de cesser de donner ton courriel quand tu fais affaire avec une nouvelle entreprise. Parce que ces entreprises-là, pour certains, peuvent revendre ton courriel si tu corresponds à un type de clientèle. Okay. Si, exemple, toi, à chaque fois que tu vas... Je dis ça, là, mais je pense pas qu'ils le fassent. Mais mettons que tu vas chez Best Buy, puis tu achètes tout le temps des produits Mac ou Apple. Ben, les autres, ils le savent. Fait que pour Apple, de savoir que toi, s'ils t'envoient quelque chose, des nouveaux produits, tout ça, c'est vraiment payant. Fait qu'ils peuvent acheter des listes. Je dis pas qu'ils le font, mais ce que l'expert en courriel nous dit, c'est faites attention parce que vous êtes pas mal plus ciblé que vous le pensez.
Ben,
fait que quand vous faites affaire avec un nouveau client puis vous dites pour que je t'en joigne, là, moi, quand je suis dans le garage, je fais comment? C'est quoi ton courriel? Tu le donnes pas, tout simplement.
Mais les gens n'ont même pas idée à quel point c'est subtil.
Ou tu dis Denis Gravel à BLVD, là, quelque chose du genre.
Il t'en donne un autre.
Ouais, c'est
facile.
Ça. Tu donnes celle-là à Denis, fait que tu peux être sûr que lui, ça le dérange pas.
C'est ce
qu'il lit pas.
C'est ce que toi et Denis, vous faites avec moi, dans le fond, c'est ça.
On est de même. Audrey, c'est tout.
Hey, c'est déjà fini.
Ça a été un plaisir.
Bonne retrouvaille avec Pasquale.
Salut, Dodo.
Salut. Ciao, bye. Là.
Tes auditeurs vont t'appeler Dodo maintenant.
Dodo, hein.
418-971-1021. Dites bye-bye, Dodo. Nous autres, on se laisse avec Vincent Vallière. Pascal CV s'en vient dans les prochaines secondes. C'est son retour. Elle est rendue à Cancun, Québec. Elle était au Nunavut. Donc, tout de suite après Vincent.
Ciao, ciao. Je suis